France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Maddy Mesplet. Elle nous avait déjà rendu visite voici quelques années. En ce mois de mars, elle fête ses 80 ans et EMI réédite quelques-uns de ses plus beaux enregistrements. Maddy Mesplet publie également une autobiographie où il est question, entre autres, de la maladie de Parkinson. De tout cela, nous parlerons ensemble et en musique. En fin d'émission, Serge Laïc consacrera sa chronique au chef d'orchestre André Liverneau. Mais après cette belle semaine de printemps, commençons par respirer ensemble un petit peu d'air de Paris.
On ne le saura jamais, on ne le saura jamais, on ne le saura jamais.
On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis.
On ne le saura jamais.
L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. Peut-être est-il venu au coin d'une rue, comme un enfant perdu, l'air de Paris. Ou là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous, l'air de Paris. Toi tu es arrivé 2000 ans après, moi je t'ai trouvé simplement, sans te chercher. Devant un café crème dans le matin blême, je t'ai dit je t'aime, souviens-toi, nous étions là. Deux ombres que la vie avait réunies en plein cœur de Paris, tout endormi. On s'est aimé d'amour et depuis ce jour, tout notre passé s'est changé en avenir. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit l'air de Paris.
On ne le saura jamais.
On ne saura jamais si le même jour l'amour vit le jour avec lui dans l'île Saint-Louis.
On ne le saura jamais.
On ne saura jamais si l'air de Paris porte en lui tout l'amour du monde entier. Puisqu'il nous l'a donné, à quoi bon chercher, à quoi bon savoir ce que l'on ne saura jamais.
Il a si bien chanté Paris dans beaucoup de chansons. La plus connue, c'est peut-être À Paris. Celle-ci, un peu moins. L'air de Paris, enregistré en 1958 avec Frank Haussmann et son ensemble. C'était, bien sûr, Francis Lemarque, grand poète, auteur, compositeur de Paris. Né d'ailleurs lui-même rue de Lappe, dans le quartier de la Bastille, en 1917 et mort en 2002. C'est vraiment l'un des meilleurs artistes de la chanson française qui est à l'honneur avec une parution chez Frémo et Associés, un double disque réalisé par notre ami Dany Lallemand, que j'avais eu le plaisir de recevoir ici et qui est un grand collectionneur, qui consacre donc ce double coffret à Francis Lemarque, les premières années d'enregistrement de 1949 à 1959. Je suis sûr que vous allez tous vous précipiter.
Thank you.
Voilà, inutile de vous le dire, vous ne le voyez pas parce que c'est à la radio, mais que je fais mon émission de ce matin en culotte tyrolienne pour accompagner ce swing irrésistible de notre ami Pierre-Marcel Onder. Enfin, c'est lui qui l'a choisi dans son nouveau disque « Fête au village tyrolien ». C'est un régal, c'est à la fois psychédélique et populaire. Enfin, moi j'aime beaucoup. Là, c'était « Le plateur des cloches de vache » enregistré en 1958. Et puis je voudrais rendre encore un hommage vibrant à mon ami Jean-Christophe Keck pour son festival Offenbach et ses amis que j'ai découvert cette année à l'occasion de sa 3e édition. Il en avait un peu parlé à ce micro, mais évidemment on est mal placé pour faire soi-même l'éloge des manifestations qu'on organise. Alors moi je peux vous dire, parce que je suis pour rien là-dedans, que c'est un festival merveilleux à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, au pied du massif des Écrins pendant une semaine. Ce qui m'a frappé en particulier, c'est la qualité du travail associatif, l'engagement de tout le monde, les membres de l'association elle-même, la directrice du festival, les habitants des différentes communes qui ont tous participé avec beaucoup d'enthousiasme, aussi bien comme figurants dans le spectacle, comme bénévoles de toutes sortes, comme maquilleurs, comme coiffeurs, enfin tout le monde vraiment est dans l'affaire et ça donne un festival d'une très très bonne qualité avec un public nombreux, fervent, avec un spectacle extraordinairement réussi. Cette année c'était Croque-Fer ou le dernier des paladins du Offenbach, grand délire des premières années, vraiment tout ce que j'aime, le côté un peu pré-dadaïste et surréaliste, un spectacle vraiment magnifique avec un décor de Rémy Mouilleron, réalisé encore dans le cadre de cette amicale bénévole et enthousiaste, un très très beau décor, une belle mise en scène de Franck Thézan. Je vous propose de retrouver tout de suite dans l'unique enregistrement discographique de cette œuvre qu'on puisse trouver en cherchant bien dans le commerce, un petit extrait justement de Croque-Fer ou le dernier des paladins. Et là, c'était Bernard Sinclair qui chantait le rôle de Croquefer. Il faut préciser d'ailleurs, dans cet ensemble, il y a un personnage qui se contente d'aboyer, parce qu'au temps où l'œuvre a été créée, eh bien, il y avait une restriction du nombre de personnages par la censure sur la scène du théâtre. Et donc Offenbach trouvait des subterfuges. Il utilisait soit des pancartes, soit des aboiements, des onomatopées pour pouvoir rajouter des personnages sans qu'on les considère vraiment comme des chanteurs. C'est une des raisons de ce côté assez délirant de Croquefer ou Le Dernier des Paladins, dont les personnages se nomment Croquefer, Boutefeu, Ramasse ta tête, Fleur de soufre et Mousse à mort. Une excellente œuvre donc qu'on a pu redécouvrir au festival de Serre-Chevalier, avec aussi des concerts, des récitals d'opérette, puisque le thème du festival c'est Offenbach et ses amis. On a pu entendre aussi Audran, Messager, Planquette et beaucoup d'autres, interprétés par les cinq chanteurs du spectacle. Franck Thézan qui réalisait aussi la mise en scène, qui a une merveilleuse et généreuse présence sur scène, mais aussi Michel Vessière, chanteur d'opérette élégant et raffiné comme on aime, que vous connaissez peut-être parce qu'il a beaucoup interprété d'opérette un peu partout en France. Et puis aussi Bruno Comparetti, une voix plus lyrique mais qui s'est retrouvé très à l'aise dans ce répertoire bouffe. Frédéric Mazzotta qui est un humoriste extraordinaire. Et puis Aude Sardier qui avait le seul rôle féminin et qui sait très bien faire alterner justement elle aussi le raffinement et la bouffonnerie. C'était vraiment du très très bon spectacle à découvrir donc à Serre-Chevalier. Et j'espère que l'année prochaine, ça va être aussi bien. On va retrouver tout de suite deux des interprètes de Croquefer. C'est tout simplement le chef d'orchestre Jean-Christophe Keck, mais là qui devient ténor en duo avec son ami Franck Thézan dans un petit extrait des Deux Pêcheurs, une opérette peu connue d'Offenbach.
Venez, 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 petit poisson.
Venez, venez, mordra mes hameçons.
Venez, mordra mes hameçons.
Venez, venez, mordra mes hameçons.
Venez, 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 petit poisson.
Franck Tézan et Jean-Christophe Keck dans les rôles de Polissard et Grosminet. C'est le nom des deux héros de ces deux pêcheurs d'Offenbach, une petite œuvre de 1857 qui reprend un peu le sujet d'ailleurs des deux aveugles. Erika Guillaumard était au piano. Tout cela pour dire qu'Offenbach est bien servi avec justement ce duo Franck Tézan, Jean-Christophe Keck qu'on pourra retrouver cet été au festival de Bruniquel, un autre festival Offenbach, celui d'été donc. À signaler aussi d'ailleurs le troisième festival Offenbach, celui qui se tient à Étretat au mois d'août, et on pourra entendre cette année Vent du soir, une œuvre peu connue sous la direction, en tout cas dans la mise en scène d'Yves Coudray. Voilà, beaucoup d'Offenbach au programme en attendant la quatrième édition du festival de Serge Chevalier. Ça, ce sera dans un an, vous l'avez compris. Je vous encourage vivement à suivre tout cela avec attention. Ça n'est pas Offenbach, mais il était lui aussi à l'honneur à Serge Chevalier dans un des concerts dirigés par Jean-Christophe Keck. Émile Waldteufel, ici dans son Prestissimo par l'orchestre de l'Opéra de Monte Carlo, sous la direction de Willy Boskowski. Voilà, nous sommes bien en train, bien en fête, bien en joie avec toute cette musique. Et la joie va augmenter parce qu'on va retrouver maintenant une très grande artiste que je reçois ici avec beaucoup de bonheur pour la deuxième fois, Madame Maddy Mesplé.
Yeah.
Bonjour Maddy Mesplet.
Bonjour.
Je vais vous faire un aveu, c'est que quand j'ai envie d'être en forme, d'être heureux, en fait, je prends certains disques de vous, comme ce petit morceau extrait de la Manon Lescaut d'Aubert, j'écoute ça, et puis après, je me sens mieux, je me sens plus souriant, je me sens plus en forme. Et je sais que vous vous intéressez beaucoup aux effets, au-delà même de la musique, aux effets psycho-acoustiques de la voix, mais c'est vrai que la voix, c'est quelque chose qui nous soigne et qui nous transporte.
Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai bien fait de venir pour entendre ça, je suis très contente d'être là, voilà. Vraiment.
Non, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de magique dans le mélange de la virtuosité et de la couleur. Et d'ailleurs, vous expliquez bien dans votre livre récent que, par exemple, le fait que les chanteurs sourient pour chanter, où on a l'impression qu'ils sourient toujours, c'est quelque chose qui est profondément lié à la technique même de la voix.
Bien sûr, c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Vous avez une amie qui travaille avec vous, avec qui vous échangez souvent sur toutes ces questions de technique vocale. Et...
Oui, j'ai mon copain de régiment. Mon copain de régiment, c'est Jeanne Berbier.
Bien sûr.
Et nous échangeons beaucoup, beaucoup de... Nous parlons souvent technique vocale, ça c'est sûr.
Alors, je voulais commencer par cette note un peu souriante, parce que vous venez d'écrire un livre passionnant, mais qui est un livre aussi un peu dur par moments. C'est un livre, d'abord, où vous évoquez la mort de votre fille. C'est un livre où vous évoquez beaucoup aussi, on va y revenir tout à l'heure, la maladie de Parkinson et donc votre propre combat avec cette maladie. Et en même temps, justement, j'ai envie de dire, c'est un livre plein d'énergie, de combat, de volonté, d'amour de la vie.
Mais il faut essayer d'apprendre à se battre, je dirais.
Oui.
Enfin, personnellement, je n'ai jamais trop accepté les aléas de la vie et je trouve qu'il faut essayer de voir le bon côté des choses.
Ben oui, mais...
C'est pas toujours facile, non, ça c'est sûr. Et surtout avec une maladie comme celle que j'ai. Mais enfin, je ne suis pas la seule et je dis, il y a des gens qui sont beaucoup plus mal lotis que moi. Alors,
le fait de faire un livre, ça vous a aidé d'une certaine façon, ça vous a...
ben, c'est-à-dire, je n'avais jamais pensé faire un livre et j'ai toujours refusé qu'on fasse ma biographie. Ça, je ne voulais pas, parce que je trouve que c'est rentrer dans la vie intime, si vous voulez. Et je préférais de ne pas laisser faire cela. Seulement, j'ai des amis, notamment l'association France Parkinson, qui m'ont dit que je pourrais aider certaines personnes. Alors, je me suis dit que si je pouvais faire quelque chose, j'allais le faire.
Alors, on va y revenir tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Mais j'ose dire aussi, en général, on ne le dit pas avec les dames, mais puisque vous en parlez vous-même, que c'est un peu le livre aussi de vos 80 ans.
Oui, oui, j'ai eu 80 ans.
On
lundi
peut le dire.
Hein. Mais bien sûr, il faut le dire. Qu'est-ce que ça change? J'ai débuté, j'avais 22 ans, ben ça fait assez longtemps, je crois.
Ça fait assez longtemps, ça fait beaucoup de disques, ça fait beaucoup d'opéras, ça fait beaucoup de bonheur pour nous. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette histoire aujourd'hui, en commençant évidemment par une œuvre qui est pour vous, dans votre histoire personnelle, particulièrement importante.
Restons encore pour qu'il soit.
C'est un peu moins connu que Les Clochettes, mais c'est tout aussi beau, cet extrait de L'Acmé, enregistré par vous en 1969, Maddy Mesplé. Cette œuvre, elle a accompagné toute votre vie.
Hein. Oui, absolument. Et quand je pense à ce court passage, oui. Je crois que je le chantais plus pour moi que pour le public, vous voyez, parce que j'aime beaucoup cette phrase, je la trouve merveilleuse.
C'est étonnant parce que quand vous étiez encore toute petite fille, que vous commenciez la musique, déjà un professeur, quelqu'un vous a dit, un jour cette petite chantera L'Acmé.
Oui, c'est exactement, il y avait un inspecteur qui venait, voilà. Et on me faisait chanter parce que je chantais juste, j'avais une jolie voix d'enfant. Ouais. Et puis alors l'inspecteur a dit, tiens, c'est une future L'Acmé cette petite. Et je suis arrivée chez moi, comme le chat botté avec les bottes de cette lieu. Voyez. J'étais tellement heureuse quand je suis arrivée et j'ai dit ça à maman. Maman m'a dit, il n'y entend rien cet inspecteur.
En fait, oui, c'est ça. Votre mère s'est inquiétée de l'idée de vous voir devenir saltimbanque,
oh,
comme elle disait.
Comment ? Elle dit, non, une saltimbanque, il n'en est pas question. Pas chez nous.
Voilà. Et on sent très bien d'ailleurs dans votre livre, c'est assez paradoxal et assez fin parce que votre mère, au fond, vous a à la fois retenu, dissuadé et encouragé à sa façon discrète dans toute votre carrière.
C'est tout à fait ça, tout à fait. Elle était heureuse en tant que mère, oui. Quand elle voyait son enfant qui réussissait. Enfin bon. Mais pour elle, une femme, c'était une femme qui devait se marier, qui devait avoir des enfants et qui devait s'occuper des enfants et du mari. Voilà, c'est tout. Ça s'arrêtait là.
Donc vous seriez resté à Toulouse, vous auriez eu peut-être une grande famille, mais évidemment, nous, on aurait beaucoup perdu. Et alors, l'autre chose qui m'a fasciné dans ces souvenirs, je le savais, mais je vois à quel point vous avez eu une formation musicale complète. Parce que malgré tout, donc, vos parents vous ont laissé étudier la musique et vous avez travaillé le piano jusqu'à un haut
très,
niveau.
Très sérieusement, oui, ça c'est sûr. Mais j'avais même pensé, enfin, à mon fort intérieur, je pensais que j'allais faire une carrière pianistique.
C'est ça.
Et comme j'avais rencontré, je devais avoir 12 ans, 13 ans, je ne sais plus, Lazare Lévy, qui était professeur au conservatoire de Paris, et il m'avait dit, je vous attends l'année prochaine, j'ai une place, elle est pour vous. Et moi, j'ai cru que c'était tout à fait facile, alors je suis arrivée à la maison et j'ai dit à maman, je pars à Paris. Et alors elle m'a expliqué que je n'allais pas partir à Paris parce qu'il n'en était pas question, qu'elle ne pouvait pas parce que nous n'avions pas l'argent nécessaire pour le faire. Mais quand j'y repense avec le recul, si vous voulez, c'était une époque où je pense que des parents ne se séparaient pas d'un enfant comme ça. Il fallait ou déménager, que toute la famille déménage.
Mais finalement, cette formation pianistique, ça vous a fait beaucoup de bien.
Ça, c'est formidable. Ouais. D'abord, rien que le fait de chanter en mesure, ouais. vous êtes déjà ami avec le chef d'orchestre, qui peut être un ennemi. Bon, mais là, vous êtes déjà ami. Alors, c'est un point gagné. Là.
Ça vous a conduit à des expériences étonnantes, comme par exemple d'accompagner le tout jeune Christian Ferras à oui. Toulouse, votre ville natale.
Mais ça, je ne suis pas sûre que mon professeur ait eu raison, mais enfin, il paraît que oui. C'était quand même très dur. Qu'est-ce que j'ai eu peur, c'était affreux.
Et puis ce qu'on découvre aussi dans ce livre, c'est que vous avez eu, au fond, tout de suite, et ça vous a suivi toute votre carrière d'ailleurs, une certaine ouverture d'esprit, curiosité. Vous avez aussi bien joué dans les petits orchestres de danse que passer les concours du conservatoire.
Hein. Oui, c'est peut-être une ouverture d'esprit, mais quand j'ai su que je ne pouvais pas partir à Paris, il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai dit, je vais gagner ma vie comment ?
Oui.
Alors j'ai appris, c'est un ami de maman qui faisait ça déjà, qui m'a appris ce qu'on devait faire parce que quand on joue des tangos, des slow, on a une musique, bien sûr, on regarde. Mais cette musique, elle est écrite pour ceux qui ne savent rien. Ouais. Il faut ajouter quelque chose, il faut faire un accompagnement beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Ouais. Alors ça demande pas mal de travail et pas mal d'idées, si vous voulez. Voilà.
Ça vous a conduit à accompagner aussi dans des spectacles des personnages étonnants. Par exemple, vous racontez des anecdotes très drôles avec Pierre Doris.
Mais Pierre Doris, ça je me rappelle vraiment, je le revois me donnant une petite feuille de chou enfin, où il y avait trois notes marquées. Et puis cette chanson était, mettons, en ré majeur. Dans un coin, il y avait si bémol. De l'autre côté, il y avait mi bémol. Le troisième coin, il y avait do majeur. Puis il y avait la. Et puis je dis, alors, je joue dans quoi ? Qu'est-ce que je joue là, monsieur ? Il me dit, tu fais ce que tu veux. De toute façon, je chante ce qui me plaît.
Voilà.
Alors là.
Et il posait un réveil.
Sur le piano.
Sur le piano, au début du spectacle.
Oui, parce qu'il pouvait rester là une heure, deux heures, trois heures, sans aucune importance. Seulement, l'entracte ne durait que 20 minutes. Alors, au bout de 20 minutes, le réveil sonnait et nous partions.
Quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
Et puis, vous avez également accompagné alors un autre artiste qu'on va écouter ensemble pour le souvenir. Je ne dis pas son nom, je le dirai tout de suite après, mais vous allez le reconnaître, évidemment.
Quand le jour s'assombrit et se voile, quand au ciel on voit luire mille étoiles, la forêt paraît sortir du silence, et l'on entend un chant monter en cadence. Jambalaya crie les Indiens qui se rassemblent, Jambalaya répond au loin l'écho qui tremble. Et soudain sur les eaux tout danse, on voit filer les piroguiers qui s'élancent. Les Indiens aujourd'hui sont en fête, dans la nuit tous les tam-tams le répètent. Et là-bas comme le veut la coutume, brille les dieux autour des feux qui s'allument. Jambalaya, dit le sorcier qui saute et danse. Jambalaya, crient les guerriers levant leurs lances. Et les chefs sous leurs scalpes et leurs plumes fument en rond le calumet sous la lune. À minuit, quand les flammes rougissent, les Indiens font au ciel des sacrifices. Le grand chef choisissant sa compagne, tout en chantant vers le sorcier l'accompagne. Jambalaya mêlant leur sang selon l'usage, Jambalaya c'est maintenant le mariage. Sous les yeux flamboyants des idoles, c'est tout à coup un rythme faux qui s'envole. Jambalaya comme une loi, la fête indienne. Jambalaya hurle de joie et se déchaîne. Et bientôt dans le jour qui s'éclaire, le chant indien va s'effacer puis se taire. Jambalaya, jambalaya, jambalaya.
Voilà un artiste un peu oublié aujourd'hui, mais qui a eu beaucoup de succès après la guerre. Armand Mestral, Maddy Mesplé, oui.
Et je vous disais qu'il avait chanté le Barbier de Séville, ça c'est sûr.
Voilà, parce qu'il était à la fois comédien, chanteur de variété et aussi chanteur classique.
Oui, absolument. Mais il profitait du Barbier parce que c'est un très beau rôle. Et comme il chantait la calomnie, il y a des ensembles, bien sûr, mais il les avait appris.
Mais bien avant que vous ne chantiez, vous, le Barbier, vous avez donc accompagné Armand Mestral au piano à Toulouse.
Bien sûr, et puis alors très aimablement, il m'a dit, tout de suite, il m'a dit, est-ce que vous déchiffrez ? Je lui ai dit, attendez, dans 5 minutes, je vais vous faire voir ce que je fais.
Et donc, cette période de votre vie, vous avez fait donc beaucoup de piano, finalement, a pris fin parce que vous vous êtes remise au chant, mais vous aviez suivi judicieusement le conseil de ne pas chanter pendant plusieurs années au moment de l'adolescence.
Parce que j'avais fait des bêtises. Vous savez, le jeudi qui était notre jour de congé à l'école, je chantais facilement 2 opéras entiers.
Ah oui.
Oui, mais je chantais Basile, comme je chantais
tous les rôles.
Mephisto, Carmel. Et alors, mon professeur de solfège s'était rendu compte que mon timbre de voix était altéré, si vous voulez. Alors, elle m'a demandé de faire venir maman, et elle a dit à maman, mais est-ce qu'elle chante ? Maman lui a dit, elle chante tout le temps, elle chante à table, elle chante tout le temps. Elle nous ennuie.
Et vous dites d'ailleurs que parfois, quand vous avez par la suite reçu des parents avec leurs enfants doués pour le chant, ils avaient au fond la même réaction d'incompréhension quand vous leur disiez surtout qu'elle ne chante pas pendant un certain temps, parce que c'est indispensable, mais les gens ne comprennent pas.
Non, les gens ne comprennent pas et les enfants en comprenaient encore moins.
Oui.
J'avais beau tout expliquer, dire que j'étais passée par cette épreuve. Oui. Non, ça ne leur plaisait pas du tout.
Donc vous avez repris les études de chant. On ne peut malheureusement pas évoquer tous les détails qui sont dans le livre. Les auditeurs les découvriront page après page. Mais il y a ensuite un autre personnage qui a joué un rôle très important. C'est Louis Izard qui a vraiment un peu, on peut dire, lancé votre carrière en vous amenant
À Liège.
À Liège, pour un concours et pour chanter, justement, pour la première fois sur scène.
Pour passer une audition auprès du directeur. C'est-à-dire, Louis Isard, qui était le directeur du Capitole, mais était aussi le mari de mon professeur. Mon professeur avait beaucoup chanté, elle s'appelait Chauny Lasson, et elle était liégeoise. Alors, tous les étés, il partait en Belgique. Et cette année-là, l'année de mon prix de chant au conservatoire, Louis a décidé de m'amener et de me présenter au directeur de Liège. Voilà. Alors j'ai auditionné auprès du directeur de Liège et puis il m'a engagé tout de suite, voilà.
Et en plus, le premier rôle, justement, ça a été l'Acmé.
Ah oui, oui. Mais ça, c'est la folie. Je me demande s'il faut le dire, parce que si certains jeunes entendent ça, ils doivent dire qu'elle était folle. J'étais innocente.
Oui, ce qui est très drôle, en tout cas, c'est que vous racontez, parce qu'à l'époque, alors ça, on a un peu oublié, les chanteurs venaient avec leurs costumes.
Bien sûr.
Et alors, ça donnait pas toujours des mélanges très heureux, d'une part, mais d'autre part, vous vous étiez fait faire pour ce premier L'Acmé un costume qui n'avait au fond rien à voir avec le personnage de L'Acmé.
Il y a un manteau au départ parce que c'est une fête religieuse, si vous voulez, elle chante. Et alors, il y a un manteau, il y a une tiare. Et moi, je ressemblais plus à la reine d'Angleterre qu'à une hindoue. Non, c'était terrible. Et je pense que les amateurs d'opéra n'ont jamais vu une L'Acmé habillée comme moi. Le deuxième acte qui se passe dans la foule, elle n'a pas d'argent. Enfin, elle a un sari qui tombe à lambeaux, en principe. Ouais. Moi, je suis arrivée avec un sari doré.
Enfin, voilà. Vous gardez un bon souvenir, j'imagine, de cette ville de Liège, hein, qui est aussi une des grandes villes, justement, du circuit lyrique français, qu'il était encore plus à l'époque.
Hein. Oui, oui, ça, c'était... Il y avait une force de l'opéra, si vous voulez, comme le Capitole à Toulouse. Oui. Le Toulousain allait au Capitole et le Liégeois allait dans son théâtre. Et c'était toujours plein.
D'ailleurs, on dit toujours, ce sont un peu les deux viviers un peu du chant français, c'est la région de Toulouse, le sud d'un côté, et puis la Belgique, le nord de la France.
Voilà, hein. Absolument, absolument.
Et donc votre carrière, alors à ce moment-là, a assez rapidement pris son envol, mais vous êtes passé aussi par cette école très importante qu'on a un peu oubliée aussi, qui est celle de la troupe, en entrant évidemment à la troupe de l'opéra.
Oui, je suis rentrée à l'opéra, c'est vrai, je suis rentrée dans la troupe. Mais à cause ou par rapport au rôle que je chantais, si vous voulez, je n'ai pas participé à beaucoup d'opéras puisque je chantais, qu'est-ce que je chantais ? L'Acmé, le Barbier de Séville et les Contes d'Hoffmann à l'Opéra Comique. Ouais. Et puis pendant 3 ans, je n'ai pas mis les pieds à l'opéra alors que j'avais un contrat opéra. Ouais. Et puis après, j'ai chanté Rigolette. Et de Rigolette, je suis passée à Lucia. C'est tout ce que j'ai chanté. Bon, j'ai chanté les Indes Galantes, mais tout le monde chantait les Indes Galantes, puisque nous étions 600, je crois, sur scène. Alors, j'ai connu la troupe, et la troupe est très intéressante, j'avoue. Mais pour moi, c'était un peu à part.
Ça n'a pas été si important que ça dans votre carrière.
Mais je trouve que les troupes sont très intéressantes.
Malgré ce que vous racontez, que c'est les piliers de la troupe, regardez les petites nouvelles qui arrivaient de province avec un air un peu dédaigneux.
Ah, ça c'est vrai alors, oui, ça c'est vrai.
Mais on retrouve, alors à chaque étape, Jeanne Berbier, vous l'avez dit tout à l'heure, votre camarade de régiment.
Oui, c'est mon copain de régiment.
Qui est là et qui suit pratiquement en parallèle
absolument.
La même carrière. Que vous.
Absolument, nous sommes connus en classe de piano chez Madame Dora au Conservatoire de Toulouse et puis on ne s'est plus quittés, voilà.
Voilà, alors on va vous retrouver justement dans un grand rôle que vous avez, je ne sais pas si c'est vous-même qui avez fait le choix parce que EMI vient de faire paraître un très joli coffret avec quelques-uns de vos grands enregistrements et puis des inédits et j'ai relevé notamment cet extrait de la Pivoleuse que j'aime beaucoup.
Ah, que j'aime beaucoup moi aussi.
Voilà, vous avez participé au choix des morceaux ou vous avez laissé faire ?
Non, je laisse faire parce que je fais toute confiance à Alain Lanceron que je connais depuis qu'il était en courte.
Courte.
Alors, tout ce qu'il décide, c'est très bien. Il n'y a pas de problème.
Thank you.
La Gazzaladra, la pivoleuse de Rossini, encore une merveille que vous avez enregistrée, Maddy Mesplé, en 1974. Est-ce qu'il y a pour le chanteur, comme pour l'auditeur, un plaisir particulier dans la note très très aiguë?
Oui, oui, un plaisir.
Il y a quelque chose.
Quand on est sûr, disons qu'il y a peut-être un centième de seconde où on a un peu peur que ça ne sorte pas,
oui.
Mais enfin ça on n'y pense pas.
Et quand on y est, c'est très agréable.
Absolument, absolument.
Alors, à propos de notre très aiguë, il faut préciser que votre vrai prénom, c'était Madeleine.
Oui, bien sûr.
Mais qu'il y avait une autre chanteuse qui allait très haut dans l'aiguë à l'époque, c'était Mado.
Mado Robin, oui.
Mado Robin. Et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles vous avez opté pour Maddy.
Ah, mais c'est sûr.
C'était pour ne pas faire
c'est
comme Mado.
C'est la raison, bien sûr.
Voilà, Mado Robin. Vous aimez le style de Mado Robin?
Je trouvais qu'elle avait oui. D'abord ce suraigu étonnant. Oui. Donc elle se servait très bien. Oui. Et c'était une femme adorable.
Adorable,
gentille,
je crois.
Vraiment oui. Adorable.
Vous l'avez rencontrée?
Oh oui, bien sûr. Oui. Elle m'a offert des fleurs. Elle m'a fait un petit mot un jour pour me dire qu'elle pensait à moi pendant le spectacle. C'était très, très gentil. Elle était très gentille.
Une autre artiste que vous évoquez dans ce livre et qui a été une bonne camarade, enfin aînée, qui vous a bien soutenue dans vos débuts dans la carrière, c'est Jeannine Michaud.
Jeannine Michaud, oui, j'étais son élève de toute façon.
Oui, oui.
J'ai travaillé un certain temps avec elle. Et puis c'était une Toulousaine, alors.
Oui, mais elle aussi, c'est quelqu'un qui a parfois la réputation d'avoir été une femme un peu dure dans certains cas.
Elle était assez difficile,
oui.
C'est vrai, elle était assez dure.
Mais avec vous, on la sent un peu protectrice quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'aimais beaucoup, ça c'est sûr.
Une autre étape évidemment importante dans cette période-là, plus encore qu'aujourd'hui, peut-être dans la carrière du chanteur et de la cantatrice, en l'occurrence, ça a été Aix-en-Provence, évidemment.
Bien sûr.
Et Gabrielle Dussurgé.
Oui, ça, j'ai débuté là-bas. C'était l'ouverture vers une carrière beaucoup plus importante.
C'est ça.
Et Gabrielle Dussurgé m'a offert de choisir où je prenais Platé. Oui. Où je prenais Zémire et Azor qui s'est transformé en La Belle et la Bête et Le Téléphone. Et j'ai préféré, enfin j'étais beaucoup plus attirée par La Belle et la Bête que par Platé, voilà, c'est tout. Mais j'étais très contente, très heureuse et fière d'être à Aix-en-Provence.
Mais là justement vous avez cité Zémire et Azor, vous avez cité Le Téléphone de Menotti et ça c'est quelque chose qui est très plaisant dans votre carrière, c'est qu'on a l'impression que vous n'avez jamais voulu vous enfermer dans les grands rôles les plus connus, mais que vous avez toujours eu la curiosité de toute la musique, depuis la musique presque baroque, comme Grétry, jusqu'à la musique contemporaine.
Bien sûr, moi, je pars du principe qu'il y a la bonne musique et la mauvaise.
Voilà.
Alors, la bonne, nous avons vraiment de quoi faire dedans.
Et donc, ces rôles alors, vous ont conduit alors, un peu partout en France, en Europe, et puis aux États-Unis. Alors ça, c'est très intéressant dans votre livre, parce qu'on découvre aussi que vous avez beaucoup, beaucoup chanté là-bas, dans toutes les plus grandes salles, pendant un certain nombre d'années.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'étais très bien. J'aime les réactions des Américains. Je me rappelle un mignon que nous avions fait à Miami avec Teresa Bergazza et Juan Oncina. Et au beau milieu d'un trio, je crois que c'est un trio, oui, il y a le ténor qui a une très belle phrase.
Oui.
Eh bien, le public s'est mis à applaudir à la fin de cette phrase et je trouve ça formidable. On a dû arrêter, quoi.
Ça vous choque pas comme les puristes
pas
qui ne supportent pas qu'on applaudisse?
Non. Il avait bien chanté, il avait chanté avec son cœur, sa musicalité, sa jolie voix. Alors le public était content, il l'a dit.
On sent oui cet enthousiasme aussi. Vous racontez les affiches pour les Français qui viennent chanter à Miami. On a l'impression que c'était un événement extraordinaire.
Ah oui, mais ça c'était pour eux un événement extraordinaire. Surtout quand on a rencontré ce monsieur dans la rue qui nous a dit qu'il avait des Français qui venaient chanter. Il était très heureux. Puis on lui a dit mais les Français c'est nous. Oh, on a cru qu'il avait un infarctus, cet homme. Et puis, il était très heureux.
À plusieurs reprises, notamment dans ces tournées américaines. Vous êtes fatigué tout d'un coup, vous avez des moments où vous ne pouvez plus et vous arrêtez. Et vous vous posez la question si ce n'était peut-être pas la première annonce de cette maladie que vous avez aujourd'hui.
Peut-être c'est ça, parce que c'est vrai que j'ai eu des fatigues qui étaient incompréhensibles. Mais on mettait tout cela sur l'histoire de la tension artérielle, que j'ai eue toujours très très basse.
Ah oui.
Et ça m'a joué des tours. Et puis ça m'a demandé surtout beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Parce que de temps en temps, les derniers actes étaient difficiles pour moi. Ouais.
Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, alors, peu à peu, vous vous êtes quand même tourné beaucoup vers les enregistrements discographiques, les concerts de mélodies, etc. C'était peut-être parce que la scène, au fond, vous apportait beaucoup de plaisir, mais aussi de fatigue.
C'est une des raisons, oui. Ouais. Parce que, disons qu'après 77, ou je sais plus, ouais. Je n'ai plus eu envie de faire de l'opéra, enfin de la scène surtout, ouais. Malgré le plaisir que j'avais de jouer. La comédie m'a toujours intéressée. Mais j'étais plus attirée par la mélodie. Et puis surtout parce que je pouvais faire mes programmes. Je faisais quelque chose en fonction de ce que je pouvais assumer. Voilà. Mais j'en profite pour dire que longtemps, plusieurs personnes m'ont appelée la dame de l'opérette. Je n'ai jamais fait de l'opérette. J'en ai chanté.
Sur scène, vous n'en avez pratiquement pas
rien,
fait.
Rien, rien du tout. Ouais. J'ai fait La Vie parisienne à Toulouse et j'ai fait quelques représentations de valses de Vienne. Voilà, c'est tout.
Et, voyez, mais vous avez fait beaucoup de disques, et tant mieux pour nous.
J'ai fait beaucoup de disques d'opérette, j'en suis ravie. Et j'ai toujours aimé l'opérette. J'avais la chance, à mon époque, tous les théâtres jouaient. Toutes les semaines, c'était l'alternance, si vous voulez. Il y avait un opéra et une opérette. Alors, quand vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous allez voir l'opérette. Uh-huh. Alors, ma culture en opérette est assez grande.
Mais qu'est-ce qui a décidé de lancer chez IMI, justement, tout ce grand programme d'opérette auquel vous avez participé pendant des années ?
Je ne sais pas, puisque j'ai commencé quand même mon premier enregistrement, il s'agissait des saltimbanques.
Oui.
Et j'avais peur, je disais à Jeannine Michaud, je lui disais, mais est-ce que je vais être capable de chanter ça ? Est-ce que je vais trouver la rondeur nécessaire ? Est-ce que je vais trouver le style, surtout ? Ça me faisait très peur. Ouais.
Vous avez chanté Véronique avec Michel Danse.
Bien sûr.
Vous avez un bon souvenir de ce duo avec
absolument,
Michel Danse ?
Absolument, absolument.
Et puis vous avez également enregistré Ciboulette avec un autre grand baryton qui était José Van Damme, bien sûr, et Nicolas Hyeda.
Ah oui, Nicolas Hyeda.
Grand artiste.
Oui, j'ai une place dans mon cœur pour lui.
C'est vrai.
Vraiment, il est fantastique.
Vous avez fait pas mal de disques ensemble.
J'ai fait des disques, oui. J'ai eu cette joie, cette chance.
Alors on vous retrouve ensemble dans cet extrait de Ciboulette.
Les parents, quand on est bébé, tout défendent, défendent, défendent. À 12 ans, c'est Monsieur l'abbé qui gourmande, gourmande, gourmande. Au collège, ce sont les pions qui réprimandent, qui réprimandent. Et plus tard, les chefs de section qui vous commandent, qui vous commandent. Enfin, majeur, débarrassé des maîtres qui vous enguirlandent. Par une maîtresse, on est passé qui commande, commande, commande. Qui commande, qui gourmande, qui commande, commande, gourmande. Et tout est à recommencer. Petite, je me sens grisée, galvanisée, je fais une osse à tout casser.
Comme il va vite, comme il va vite,
quand je sens que je vais m'amuser.
Comme il va vite, comme il va vite,
et dire que c'est ce petit bout de femme toute petite qui m'a changé du tout au tout. Comme ça vous console vite une femme qu'on ne connaît pas du tout.
On se connaît pas, mais on se devine. Votre air tendre m'a fait pitié. Vous m'avez plu par votre bonne mine. C'est peut-être ça, l'amitié.
Moi, j'aime votre silence, vos sourires. J'entends ce que vous dites à moitié. Vous me plaisez sans chose de dire. C'est peut-être ça.
Comme la vie vous semble avoir de la douceur, quand on est ensemble comme frère et soeur.
Comme frère et soeur.
Comme soeur et frère.
Connaît-vous ma soeur.
Connaît-vous mon frère.
On n'aurait qu'un cœur et qu'un seul bonheur.
On
est à peine.
On va se séparer.
C'était pas la peine de se rencontrer. Mais je suis content tout de même.
Et moi je suis contente aussi. C'est notre amour.
Pourtant on s'aime.
Comme quand on était petit.
C'est drôle comme
d'amitié bien vive.
Les choses que vous m'avez dites, personne n'y trouvait ça que vous.
N'importe qui les aurait dites.
Mais je suis heureux que ce soit vous.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis contente, très contente, que ce soit moi.
Reynaldo Hahn, merveilleusement chanté sous la direction de Cyril Diedrich par vous-même, bien sûr, Maddy Mesplé, avec Nicolas Guéda. Vous vous rappelez cet enregistrement?
Oui, je me rappelle absolument. J'ai beaucoup de joie à l'entendre d'abord et puis à me souvenir du moment où nous l'avons enregistré. Oui.
C'est vraiment de la belle musique et heureusement qu'on a grâce à vous tous ces enregistrements d'opérettes, y compris beaucoup de raretés. Hein, je pense aux trois Offenbach que vous avez fait avec Manuel Rosenthal,
oui,
par
sûr,
exemple.
Bien sûr, oui. Je ne les ai pas chantés en scène, mais je les ai enregistrés. Voilà.
Ah oui, parce que vous n'étiez pas. C'était un spectacle de Robert Derry,
oui.
Mais vous n'étiez pas vous dans le spectacle de l'Opéra
Comique.
Voilà.
Absolument.
Une fois de plus, on le rappelle, vous avez beaucoup chanté l'opérette, mais plutôt donc pour le disque hein,
c'est
que
vrai,
pour, que
c'est
pour
vrai.
La scène. Vous avez quand même aussi croisé d'autres personnages hauts en couleur autour de l'opérette et de la télévision, comme Jacques Martin, par exemple.
Ben oui, bien sûr.
Et c'est très sympathique dans votre livre, cet hommage que vous rendez au rôle qu'il a pu jouer, qu'a pu jouer la télévision pour la diffusion de la musique. Hein. Vous ne regardez pas du tout ça de haut non plus.
Ah non plus. Et puis, je trouvais qu'il nous a rendu un fier service parce que quand même, tous les dimanches, il avait d'abord un orchestre. C'était quand même, c'est cher un orchestre.
Oui, bien sûr, oui.
Et je sais que c'était difficile. Enfin, il l'avait obtenu, il avait son orchestre. Et puis tous les dimanches, il y avait de l'opéra, de l'opérette quelquefois, mais de l'opéra et de l'opéra comique tous les dimanches.
Vous avez chanté « Nous avons fait un beau voyage » avec lui en duo, non?
Mais ça, j'ai chanté ça 300 fois.
300 fois. Oui, parce que vous étiez donc une habituée de l'émission. Hein,
oui, absolument. Je venais deux fois par mois.
Voilà. Et vous avez aimé aussi, donc, dans toute cette période, vous le disiez, vous avez moins chanté sur les scènes d'opéra, aussi organisé des programmes, concevoir des moments musicaux. Par exemple, vous avez participé beaucoup aux rencontres du Palais Royal. Vous évoquez ça dans votre livre à partir de 1973, où se rencontraient des poètes, des musiciens, des écrivains.
Mais oui, absolument. C'était formidable de connaître. J'ai connu beaucoup de comédiens au Palais Royal. Ouais. Et puis, nous étions dans une bonbonnière parce que ouais. Jean-Michel Rouzière nous aimait. Oui. Et nous cajolait, nous gâtait, oui. Mais nous faisions aussi, je crois, de bons spectacles. Et je me rappelle des bons spectacles sur Beaumarchais. Puis le dernier que j'ai fait, c'était Mesplé comme musique.
Ah oui.
Et là, oui. Et là, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, je jouais au piano, j'accompagnais un violoniste. Enfin,
ah oui, là, vous faisiez tous les rôles aussi, effectivement.
Tous.
Oui. Vous avez même fait dans les choses dans le gala de l'Union des artistes encore
oui,
plus acrobatique que
c'est
ça.
Vrai,
hein.
Avec Albert Lanz. Oui. Et là, j'ai travaillé trois mois parce que alors, si quelqu'un était.
C'était quoi le numéro?
Un numéro d'équilibriste.
Oui, c'est ça.
C'était très dur, croyez-moi.
Et donc, dans toute cette période, je le disais, vous avez aussi enregistré beaucoup de mélodies. Vous aimez particulièrement tout ce répertoire de mélodies françaises.
Oui, bien sûr. Et je disais justement hier que. Dans mes programmes, je laissais une grande partie, enfin tout au moins une partie consacrée à la musique française. Parce que en tant que française, je me devais de chanter des compositeurs français.
Voilà, même si vous chantez aussi très bien l'italien et l'allemand, d'ailleurs, on peut en entendre dans ce coffret qui vient de sortir chez IMI. Mais moi, j'ai choisi une mélodie de Francis Poulenc que j'adore, sur un texte de Louis Aragon. Ça s'appelle C, comme la lettre C.
Ah, bien sûr.
Et parce que toutes les rimes de la mélodie sont en C.
Oui.
Une très belle mélodie de Francis Poulenc, c'est Gabriel Taquino, un de vos pianistes les plus réguliers, on peut dire,
oui,
Mesplé,
oui.
Avec Jeff Cohen et quelques autres.
Voilà, Jeff Cohen et David Selig, ça, vraiment. Janine Reiss aussi.
Janine Reiss aussi, oui, on en retrouve certains, du moins dans ce coffret qui vient de paraître pour vos 80 ans chez IMI, avec des raretés et puis aussi des grands succès. En même temps que ce livre, La Voix du Corps, sous-titré, c'est vraiment quand même, on peut dire, une des raisons d'être de ce livre, hein, Vivre avec la maladie de Parkinson. Ça fait 15 ans maintenant, aujourd'hui, que vous savez que vous avez cette maladie, Madame Mesplé.
Mais j'ai la chance surtout d'être bien soignée, bien suivie, bien soutenue par le professeur Léon Kahn.
Oui.
Et tout le monde n'a pas la même chance que moi.
Et la même équipe depuis 15 ans. Hein.
Oui,
vous dites
absolument.
Que c'est important d'ailleurs.
C'est important parce qu'il faut savoir, il faut étudier toutes les divergences, toutes les routes qu'on prend, que prend le corps. Il en trouve des routes qui ne sont pas bonnes.
Mais ça ne vous empêche pas d'avoir de l'humour quand vous évoquez, par exemple, ces séjours que vous faites avec d'autres malades dans une station.
Ah oui, à Ussat-les-Bains, bien sûr. À Ussat, nous nous retrouvons. Alors, il y a les années qui sont plus difficiles que d'autres.
Ouais.
Mais enfin, le moral est toujours là.
Voilà. Vous avez confiance pour l'avenir dans les programmes de recherche, les traitements pour cette maladie?
Nous comptons sur eux, nous comptons sur les chercheurs, du reste, pour trouver de nouveaux médicaments qui puissent nous aider. Voilà. Voilà.
La musique, malgré tout, est toujours très présente dans votre vie, malgré ce combat qui vous prend beaucoup d'énergie.
Toujours, oui. J'écoute toujours des concerts, j'écoute des symphonies, je me tiens au courant de tout ce qui se passe musicalement. D'abord musicalement, après pour les voix, c'est en second. Si vous
c'est en second. Ah oui, vous dites d'ailleurs dans le livre, et c'est au fond quelque chose qui ressort de toute la lecture, c'est que vous étiez musicienne plutôt que cantatrice dans votre esprit.
Hein. Oui, mais c'est vrai, je considère que je suis une musicienne dont l'instrument, c'est pas un violon, un piano, c'est la voix, voilà, c'est tout.
On va se quitter avec une petite archive de la Maison de la Radio, une chose joyeuse pour finir. Le Toréador d'Adolphe Adam, les variations d'À vous dirais-je maman, vous êtes tellement brillante, j'adore ça, je l'écoute tout le temps aussi. Mais dites-moi, pour finir, puisqu'on est à la Maison de la Radio, justement, vous avez fait quelques enregistrements avec la troupe lyrique ici
Oh oui, j'en ai fait plusieurs même.
Oui, c'est ça.
Quand je suis rentrée, quand je suis arrivée à Paris, je suis pratiquement rentrée tout de suite à la Maison de la Radio.
Ah voilà,
et
oui.
Et nous avions... Il y avait
en même temps que l'opéra, donc.
Absolument. Oui. Il y avait un ouvrage par semaine, on enregistrait.
Et vous êtes venu assez souvent, donc.
Ah oui, bien sûr.
On a d'ailleurs été heureux de quelques rééditions. Il y a eu le Don de Procopio qui a dû être fait ici.
Oui, c'est vrai.
Ce Toréador. Et peut-être qu'il y a encore des trésors à trouver, alors.
Peut-être. Cherchez bien.
On va chercher. Merci beaucoup, Maddy Mesplé. Et puis, je vous dis à bientôt.
Merci.
Le Toréador d'Adolphe Adam, brillantissime, sous la direction d'Eugène Bigot, avec Raymond Hamad, Charles Clavancy et bien sûr Maddy Mesplé qui était aujourd'hui mon invité. Alors je vous recommande de vous procurer le coffret qui vient de paraître chez EMI Classics, Maddy Mesplé édition du 80e anniversaire avec des airs d'opéra, des airs d'opérette, des mélodies, de la musique contemporaine, des chansons, enfin vraiment tout un ensemble pour redécouvrir cette belle carrière. Et puis le livre de Maddy Mesplé, La voix du corps, vivre avec la maladie de Parkinson. C'est paru récemment aux éditions Michel Lafon. Voilà, on continuera bien sûr semaine après semaine d'écouter notre chère Maddy Mesplet. Mais maintenant, il est temps de retrouver votre chroniqueur, grand spécialiste des arrangeurs et chef d'orchestre de variété, monsieur Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et avec vous, c'est pareil, les découvertes ne s'arrêtent jamais, pour moi en tout cas.
Même pour moi, je vais vous dire aussi. J'ai redécouvert André Liverneau, dont on va parler aujourd'hui.
André Liverneau, je vous laisse la parole.
Et oui Benoît, donc André Liverneau, véritable autodidacte, eh bien il a adoré son métier d'arrangeur, il le dit lui-même. Et aujourd'hui, il est plus que jamais passionné de musique du haut de ses 88 printemps.
Ah.
Alors ce natif des Ardennes apprend le piano dès son plus jeune âge, et à 18 ans, il est à Charleville, dans un dancing, il est pianiste. Alors un peu plus tard, on le retrouve dans des boîtes et dans des cabarets à Paris, et là, il concocte des arrangements pour tous les orchestres dans lesquels il joue comme pianiste. Après-guerre, c'est Camille Sauvage, le chef renommé, qui le sollicite pour quelques arrangements, ainsi qu'André Équian, qui se produit avec son orchestre au célèbre restaurant parisien Maxime. Sa chance, Liverneau l'a saisie en 1959 quand il est engagé comme répétiteur par la marque de disques Ducreux & Thompson. Il fait alors travailler de jeunes chanteurs, et non des moindres, on le verra aussi après, comme d'abord un certain Joël Holmès. Et quelques mois plus tard, André Liverneau arrange et accompagne ses disques.
C'est pourtant pas la mer à boire pour une fille de Calais. De dire je t'aime à un Anglais ou un marin du Pas-de-Calais. Mais il arrive certains soirs de dire je t'aime en étranger. Et dans le fond de la mémoire, une voix répond en français. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Du lundi au samedi, tourneur à Saint-Denis, et je t'aime. Une fois par semaine, amoureux de Paris sur la Seine. Et depuis que tu m'aimes, amoureux de tes yeux sans problème. Je ne suis pas marin, pourtant je viens de loin, et je t'aime. Je ne suis pas anglais, pourtant tu me plais, je t'emmène. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est demain. Il faut qu'on s'aime bien. Pour hier, pour demain. C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais. De dire aux marins, aux Anglais, je vais vous le montrer, mon Pas-de-Calais. Mais il arrive qu'un beau soir, on dit je t'aime sans y penser. Et ça fait mal à n'y pas croire, cette voix qui vient du passé. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Il s'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et tu l'aimes. L'étais plus qu'un marin quand t'étais dans ses mains, car tu l'aimes. L'était plus qu'un Anglais, le Pas-de-Calais, ça ne vaut pas la Seine. Il n'y a jamais loin d'aujourd'hui à demain quand on s'aime. Quand tu verras Pantin, Calais ne sera plus qu'un baptême. Hier, c'était hier. Et demain, c'est demain. Faut que tu l'aimes bien. Jean-Marie de Pantin.
Joël Holmès, un chanteur évidemment très oublié, il est mort en 2009. Et puis cette chanson, donc Jean-Marie de Pantin, était arrangée par André Liverneau, dont vous nous parlez ce matin, Serge Elaïc.
Absolument. Et alors, à côté de Joël Holmès, André Liverneau a enregistré avec Michel Arnaud, avec Marie-Josée, ou avec le jeune auteur-compositeur Georges Moustaki, déjà bien connu en 1958, puisqu'il était l'auteur des paroles de Milord pour Édith Piaf.
Bien sûr.
Et deux ans plus tard, donc en 1960, Moustaki entre en studio avec André Liverneau. Les arrangements que ce dernier signe pour le premier disque de Moustaki sont de toute beauté, avec une grande variété dans la réalisation des chansons comme « De Shanghai à Bangkok » ou « Les musiciens ».
sont venus les musiciens jonglant avec tous leurs refrains. Ils ont pris son cœur par la main, les musiciens. Elle s'est retrouvée soudain dans le pays des serpentins, au carnaval des tambourins, des musiciens. Et parmi eux, il y en avait un qui était plus beau que tous ses copains. C'était le plus beau, elle s'en souvient, des musiciens. De quoi jouait-il, je n'en sais rien, peut-être jouait-il de rien. C'est parfois un peu magicien, les musiciens. Il lui a enchanté le cœur, il a joué de son bonheur sur l'air que prenaient en majeur les musiciens. Et leur amour chantait en chœur au rythme des battements de cœur. Ils n'ont pas vu passer les heures jusqu'au matin. À l'aube des premières lueurs, quand le soleil reprend des couleurs, avant de partir pour ailleurs, un peu plus loin. Il lui a dit, faut pas que tu pleures, je serai là demain à la même heure. C'est parfois des sacrés menteurs, les musiciens. Et quand ils ont quitté sa rue, elle était seule, ni moins ni plus, comme s'il n'était jamais venu, les musiciens. Avec eux, tout a disparu, dire qu'elle y a tellement cru, a-t-elle rêvé, je ne le sais plus, elle n'en sait rien. C'était une histoire sans plus, des notes et des mots par-dessus, et ce qui est perdu, nul n'y peut rien. Pourtant ce soir j'ai entendu quelque part au coin de sa rue quelques mesures de début d'un de leurs refrains. Mais ils ne l'ont pas reconnu, les musiciens.
Le premier disque de Georges Moustaki, arrangé donc par André Liverneau. Et je précise qu'une fois de plus, Serge Laïc, vous êtes venu avec les originaux. Là, ça fait rêver évidemment les collectionneurs et les amateurs. Un beau disque Ducrété Thompson.
Voilà, et alors, grand ami de Francis Lemarque, eh bien, André Liverneau écrit avec lui plusieurs musiques pour les feuilletons télévisés de l'époque ou pour un film de Frédéric Dard, Un chat sur la ligne. Alors, sous des pseudonymes divers, il en a eu jusqu'à 8, l'orchestre d'André Liverneau fut caché derrière les noms de Sarah Sinclave, parce qu'il joue au clavecin en fait, ouais. Les Iconos, Les Futés Rusés avec la voix de Christiane Legrand, ou derrière le pseudonyme de Nick Cartoon. Et un peu à l'exemple de l'américain Spike Jones, Nick Cartoon démontait les chansons de l'époque, comme par exemple Soleil, que chantait Gloria Lasso à ce moment-là.
Thank you.
c'est très amusant, là, du Spike Jones, effectivement, à la française. Donc, oui. C'était André Liverneau sous le pseudonyme de Nick Cartoon. Et j'ai encore le Maxi 45, on appelait ça, avec quatre faces, quatre morceaux, original de Serge Elaïc.
Alors, à l'aube des années 80, André Liverneau construit son studio à Champigny-sur-Marne, là où il réside depuis toujours, avec Nicole, son épouse. Et dans ce studio, il enregistre l'accordéoniste Louis Corcia, par exemple, et d'autres artistes. Et pour l'avoir vu récemment, pour l'interviewer, et entendu faire de la musique avec un enregistreur numérique 12 pistes, on espère tous pouvoir en faire autant à 88 ans. J'en suis pas très sûr pour moi. Alors, je terminerai par l'une des plus belles pages à l'actif de Liverneau. Ce fut son parcours avec Alain Barrière, dont il fut un temps le pianiste et l'arrangeur. Et alors, avant de vous saluer, Benoît, André Liverneau évoque sa rencontre avec Alain Barrière et la création de la chanson Le Bel Amour, chanson de Barrière, qui rassemblait un grand orchestre, plusieurs choristes et qui conclura cette chronique.
J'ai connu parce qu'il était venu chez Francis Lemarque, qui était mon ami, qui habite la Varenne, tout près d'ici. Et à ce moment, il a dit à Francis, je n'ai pas de pianiste. Il a dit, tu prends Liverneau, tu auras un bon pianiste. Et puis, j'ai fait des galas avec lui. Puis un jour, il m'a dit, on va faire un disque tous les deux, comme tu fais des disques. Il savait que je faisais des disques pour tout le monde. Et on a commencé à faire un disque, c'est RCA qui s'appelait. Puis je t'entends, puis voilà, c'était bien. Alors, il m'a téléphoné un jour, il me dit, tu vas me faire une séance, toi qui aimes bien les grands orchestres, tu vas te payer un grand orchestre. Et j'ai dit, ça, je veux bien. Et à ce moment-là, il m'a dit, je voudrais bien avoir les chœurs de l'RTF. Et j'ai appelé le régisseur d'orchestre qui me commandait mes violons. J'ai dit, Barrière voudrait les choristes de l'RTF. Il me rappelle, il me dit, tu sais qu'ils sont 12. J'ai dit, 12. Alors j'appelle Barrière, j'ai dit, tu sais que les choristes de l'RTF, ils viennent pas à 4 ou 5, ils viennent à 12. Tu prends les 12, voilà. Et quand ces 12 choristes arrivent là-dedans au studio et chantent, c'est une merveille, c'est formidable.
Pourtant
Un très joli portrait d'André Liverneau qui s'est terminé par cette chanson d'Alain Barrière. Merci Serge Laïc.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, comme vous savez tout dans ce domaine, vous m'avez en plus appris que la chanson qu'on a écoutée au tout début, L'air de Paris, Francis Lemarque, arrangée par Franck Haussmann, je ne savais pas qui c'était. C'est Jean-Michel Defaille.
Jean-Michel Defaille.
Un des grands maîtres, évidemment, de l'orchestre de variété.
Et
également.
Comme il était sous contrat sous une autre marque, il ne pouvait pas utiliser son nom de Jean-Michel Defaille. Voilà. Chez Philips, puisque c'était chez Philips.
Merci Serge, on se retrouve dans quelques semaines.
Mais c'est avec un grand plaisir. Merci à vous, Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Nicolas Lafitte. Aujourd'hui, c'est Benjamin Chauvin qui était aux manettes en compagnie de Charles Barjou et c'est Sophie Pichon qui a réalisé cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. J'aurai encore beaucoup de joie d'accueillir une artiste dont on parle trop peu, une grande artiste, Madame Jacqueline Dano. Bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.